te remercions pour la parole de Dieu qui nous nourrit. Cette parole, mon Dieu, que tu as pour nous aujourd'hui. Et Seigneur, je prie afin que par le ministère du Saint-Esprit qui enseigne l'Église, elle laisse un impact dans notre cœur et elle nous change au nom de Jésus. Amen. Alors, si vous voulez bien regarder avec moi dans 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Peut-être que si vous n'étiez pas là, eh bien, pour les dimanches précédents, j'aimerais un petit peu résumer et dire que j'ai commencé une série qui va continuer aujourd'hui sur l'imagination. Parce que l'être humain est fait pour voir des images qui n'existent pas matériellement parlant. C'est tellement vrai que maintenant, certains voient un poulet dans le four. Certains sont en train de voir leurs voitures qui ont été abîmées. Quand on parle de l'imagination, on parle de l'image. Il y a l'image que l'on voit, parce que nos yeux physiques voient quelque chose. Et puis, il y a l'image que notre œil physique ne voit pas, mais qui est tellement puissant qu'elle peut déterminer notre futur. Comme je l'ai expliqué avant, rien qu'à cause de ce que certains voient dans leur imagination, il y a des couples qui se sont séparés. Rien qu'à cause de ce que certains peuvent voir dans leur imagination, eh bien, ils sont en prison pour avoir molesté des enfants. À cause de ce que certains ont vu dans leur imagination, on a la tour Eiffel. Et comme nous l'avons vu la dernière fois, eh bien, la tour Eiffel, l'image de la tour Eiffel dans le cœur de cet architecte Auguste Eiffel, était une première création. Et ensuite, quand elle a été réalisée, à vrai dire, c'était une deuxième création. La chaise sur laquelle vous êtes assis, eh bien, est d'abord passée par une première création. Elle a été conçue dans les pensées de quelqu'un. La voiture que vous conduisez a été conçue dans les pensées de quelqu'un. Cette voiture était une image avant que vous puissiez la conduire. Elle était une image dans les pensées de quelqu'un avant d'être une image sur un catalogue de vente. Les vêtements que nous portons sont issus de l'image que quelqu'un a vue. Et c'est puissant. Alors, quand on sait que Dieu a un futur pour chacun de nous, un futur qui ne dépend pas de nos diplômes, un futur qui ne dépend pas de notre compte en banque, un futur qui dépend uniquement dans ce qu'il a dans son cœur, ce qui veut dire que Dieu voit déjà ton futur. Tu réalises cela, que Dieu voit ton futur. Et que par notre relation avec Dieu, nous pouvons voir ce qu'il voit. Et quand quelqu'un ne voit pas son futur, il ne sait pas que faire de sa vie. Il ne sait pas que faire de ses talents. Il ne sait pas que faire de son argent. Il ne sait pas que faire de son temps. Tu as remarqué que quand quelqu'un a des projets, il ne dépense pas son argent de la même manière. Quand quelqu'un n'a pas de projet, en général, le chèque, eh bien, peu importe quelle est la somme qu'il y a dessus, eh bien, il est dépensé à la fin du mois. Il n'y a plus rien sur le compte. Quand quelqu'un a le projet d'acheter une maison, d'acheter une voiture, de se marier, de faire un voyage quelconque, c'est-à-dire que la personne voit, la personne a une image en tête, une destination à atteindre, eh bien, cette personne ne dépensera plus son argent de la même manière. cette personne n'utilisera plus son temps de la même manière. Cette personne n'utilisera plus ses capacités de la même manière. En d'autres mots, on ne gaspille pas quand on voit quelque chose de notre futur. Alors peut-être que certains disent, tu sais, pasteur, c'est bien beau de me parler de mon futur, mais tu ne sais pas d'où je viens. Alors justement, permets-moi de te donner la parole ce matin. Est-ce que vous avez trouvé ce verset que je vous ai indiqué ? 1 Chroniques chapitre 4. Alors, Jabès était un homme plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Jabès parce qu'elle avait beaucoup souffert en le mettant au monde. Jabès prononça cette prière, « Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction, augmente mes possessions, étends sur moi ta main protectrice et éloigne de moi le malheur et la souffrance. » Et la Bible continue en disant, « Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. » Et si vous continuez à lire la Bible, ce que je vous encourage à le faire chez vous, vous verrez que Jabès, effectivement, eh bien, a eu une vie qui a impacté sa génération. Et la Bible commence le verset en disant « Jabès était un homme plus considéré que ses frères. » Et pourtant, il a mal commencé. Quand sa maman a accouché de cet enfant, eh bien la Bible nous dit que ça s'est mal passé et qu'elle lui a donné le nom de Jabès, qui veut dire quoi ? Souffrance, malheur. En d'autres mots, eh bien, cette femme a maudit son enfant. Et cet enfant, à chaque fois qu'il entendait Jabès, ses petits copains qu'il appelait Jabès, il n'entendait pas Jabès comme vous et moi. Il entendait en hébreu malheur, souffrance. À l'école, qu'est-ce qu'il entendait ? Malheur, souffrance. Comment entendait-il sa mère ? Vous imaginez, comment l'appelait-elle ? Eh, malheur, souffrance, calamité. Et certaines mamans appellent leurs enfants petits démons. Vous voyez une différence, vous, entre petits démons ? Même si on le dit sur un ton un peu câlin, ironique. Mais le nom qu'il a reçu de ses parents, de sa maman, a en lui créé l'image de quelqu'un qui est né pour avoir des pépins dans la vie. Ce nom a créé en lui l'identité de quelqu'un qui est lié à l'échec. Quelqu'un pour qui la vie est souffrance et c'est normal. Et pourtant, la Bible dit qu'il a fini par être plus considéré que ses frères. Et la Bible nous dit que Dieu lui a accordé tout ce qu'il a demandé, ce qui veut dire que peu importe d'où on vient, peu importe d'où, comment on a commencé sur cette terre, le futur peut être différent. Mais tu sais, Dieu a un futur brillant pour chacun de nous. Dieu a un futur plein d'espoir pour chacun de nous. Dieu a un futur plein d'aventures pour chacun de nous. Dieu a un futur par lequel il veut nous satisfaire. Il veut montrer sa générosité. Mais il ne peut pas le faire sans que nous collaborions avec lui. C'est-à-dire que Dieu n'a pas de préféré en disant « Toi, je vais te donner un bon futur, et puis tiens, je te l'impose, tant pis pour toi, tu es né dans une famille aisée, tu es né avec la santé, tu es brillant, tu vas te marier avec quelqu'un qui va te faire de beaux enfants, et vous allez fêter vos 70 ans de mariage et mourir en pleine santé. » Ça ne marche pas comme cela. Ça ne marche pas comme cela. Alors, Jabès, d'une manière ou d'une autre, a dû se débarrasser de cette image qu'il avait de lui, c'est-à-dire du futur qu'il avait de lui. Et nous avons entendu, au cours des messages précédents, l'impact que l'image a sur nous. Alors comment, si tu n'aimes pas ce que tu vois de ton futur ? Peut-être parce que tu es dans la catégorie de Jabès, c'est-à-dire on a parlé de mauvaises choses sur toi. C'est-à-dire que bah, tu t'as un peu grandi seul, on ne t'a pas aidé, tu n'as pas été bien entouré, tu as grandi dans le manque, tu as grandi seul, tu as grandi en étant entouré de peu de considération. Sache que ton futur peut être différent de ce qu'a été ton passé, mais il va falloir que tu choisisses. Il va falloir que tu acceptes de voir ton futur différemment. Tu peux dire, bah, c'est bien beau, pasteur, j'aimerais, mais comment puis-je m'y prendre ? Bien, accorde-moi quelques minutes de plus et je vais te l'expliquer. En attendant, je vais vous lire ce passage où il est dit dans Proverbes chapitre 23, verset 7, je vous le lis, il est dit, « Tel il pense, tel il est. » Tel un être humain pense, tel il est. Ce qu'un être humain pense de lui-même fait de lui ce qu'il est. Par exemple, combien de fois tu n'as pas entendu que quelqu'un était vraiment dans des conditions financières très précaires, très fragiles. Cette personne gagne une grande somme d'argent. Et 6 mois plus tard, elle ne les a plus. Pourquoi ? Parce que cette personne s'est vue pauvre, tel il pense, tel il est. Elle pensait d'elle-même qu'elle était pauvre, et peu importe la somme d'argent qu'elle a reçue, elle est pauvre. En revanche, tu as pensé, quelquefois, tu as entendu aussi qu'il y a des hommes... peut-être des hommes d'affaires qui sont nés dans une famille aisée, qui ont été habitués à voir de belles choses autour d'eux, qui sont nés dans une famille où l'argent a coulé à flot. Et pour eux, la somme n'a pas d'importance. Pour eux, tout a été à leur disposition. Et puis un jour, le vent change, ils perdent leur affaire, ils perdent leur argent, ils sont ruinés. 6 mois plus tard, ils ont une affaire et ils ont tout récupéré l'argent. Pourquoi ? Tel il pense, tel il est. Alors, si, il y a différentes versions pour cela. Une autre version dit, car tel il est, telles sont les arrière-pensées de son âme. Regardez avec moi dans combien c'est important ce qui se passe dans nos pensées. Regardez avec moi dans Romains chapitre 12, hein. Romains chapitre 12, verset 1. Vous savez, très souvent, on a tendance à accuser le conjoint de ce qu'on est, accuser le gouvernement de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas, accuser l'employeur de ce que l'on a, de ce que l'on n'a pas, accuser notre famille. Accuser ou alors justifier ce qu'on est par le fait qu'on ait des diplômes ou qu'on n'en ait pas, par le fait qu'on ait connu des échecs, qu'on n'ait pas mes amis, tout est au niveau de la pensée. Que penses-tu de toi ? Parce que ce que tu penses de toi, c'est ce que tu vois de toi. Quand je dis voiture, personne ne voit, V-O-I-T-U-R-E. Personne ne voit ce mot-là. Quand je dis plage, personne ne voit P-L-A-G-E. Vous voyez une image ? Les pensées que nous avons sont des images. Tel il pense, tel il est. Si je vous dis retraite, si je vous dis soi-disant vieux jour, si je dis fin de tes jours sur terre, qu'est-ce que tu vois ? Ce que tu vois, c'est vers là que tu vas. Tu ne pourras pas dire, oui, mais tu comprends, c'est non, je vais te dire, je ne suis pas en bonne santé parce que ma mère a 80 ans, elle était paralysée, elle était allongée sur un lit, alors moi, tu comprends, je suis venue après, j'ai hérité, et voilà ce qui va se passer quand j'aurai 80 ans. Tu sais, j'entendais une neuroplasticienne, quelqu'un donc qui étudie la science du cerveau. Et aujourd'hui, les scientifiques disent qu'entre 75 et plus de 90% des maladies pas seulement mental oui, mais physique, émotionnel, proviennent de la façon dont on pense. Alors tu peux me dire, il y a un virus qui vient, il y a ci, il y a cela. Combien de fois on ne prend pas un virus parce qu'on est disposé? C'est normal. Quand un virus vient en ville, il frappe à notre porte. C'est normal de l'avoir. Tu as remarqué, pas pour tout le monde. Comment se fait-il que le système immunitaire de certaines personnes est si fort que quand le virus frappe à sa porte, le système immunitaire dit non, tu n'es pas chez toi ici, c'est moi qui commande. C'est scientifique. Entre 75 et plus de 90% des maladies mentales, physiques, proviennent uniquement de la manière dont on pense, qui, elle, va affecter notre cerveau. Et devine qui donne des ordres à ton corps, ton cerveau. Quand tu dis, oh, je n'arriverai jamais, moi, jusqu'à 40 ans. Oh, j'arriverai jamais jusqu'à 40 ans. Mon père est mort à 40 ans. Mon arrière-grand-père est mort à 40 ans. Mon chat est mort à 40 ans. Je n'arriverai jamais jusqu'à 40 ans. Qu'est-ce qui se passe? Tu arrives à 38 ans et ton cerveau qui n'a pas arrêté de t'entendre et qui obéit à tes paroles. Vous étiez dans la classe Starting Block, vous avez entendu l'importance des paroles ce matin. Ton cerveau a entendu ces paroles à nouveau et à nouveau et à nouveau. Il ne veut pas arriver à 40 ans. Il a dit, je n'arriverai pas à 40 ans. À 37 ans, tout son système commence à se fermer. Puis tout d'un coup, on lui dit, ah, mais vous savez, monsieur, vous avez un problème de rein, vous, non? Mais dites-moi votre cœur. C'est bizarre, on dirait que vous avez 100 ans. Pourquoi? Parce que ton corps que tu portes comme un vêtement t'obéit. Obéis à tes paroles, par le biais de ton cerveau. Donc, effectivement, tu veux faire attention à ce que tu penses. J'ai une question à te poser. Comment te vois-tu à 90 ans? Certains disent, ben, moi, je ne me vois pas à 90 ans. Ben voilà, tu n'iras pas jusqu'à 90 ans. C'est une chose que tu ne veuilles pas aller jusqu'à 90 ans. C'est une autre que tu te vois allongé sur un lit de souffrance à cet âge-là. C'est complètement différent. Dans ce silence royal, nous étions à Romains chapitre 12, n'est-ce pas? Romains chapitre 12, verset 1, qu'est-il écrit? Je vous exhorte donc, frères, mesdames, sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2 maintenant, ensuite il est dit, et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Une autre version dit, ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. Tu dis les coutumes du monde, c'est quoi les coutumes du monde? Ben, les coutumes du monde, c'est tu es né pauvre, tu meurs pauvre. Tu es né riche, normalement tu te débrouilles pour rester riche. Les coutumes du monde sont, si tes parents sont morts malades, toi tu vas mourir malade. Si tu es dans une caste sociale, tu restes dans cette caste sociale. Les coutumes du monde, c'est si tu as des diplômes, tu réussis. Si tu n'as pas de diplôme, tant pis. Les coutumes du monde, c'est si tu as de l'argent, tu réussis. Si tu n'as pas d'argent, tu ne vis pas bien. Qui a dit que c'est l'argent qui déterminait mon standing de vie? Tel il pense, tel il est. Tel il pense, tel il se voit et tel il est. Que vois-tu? Tu vois quelque chose. Tu te vois dans 10 ans. Tu dis, oh bah attends, non. Moi je te garantis. Tout à l'heure, j'ai dit mon retraite. Tout le monde a vu une image. Certains se sont vus en pleine santé. Certains se sont vus avec un sapin de Noël, beaucoup de cadeaux et des petits-enfants. D'autres se sont vus en train de voyager. D'autres se sont vus seuls à manger de la soupe au vermicelle près d'une cheminée où il n'y a même pas de feu dedans. Il est dit, ne suivez pas les coutumes du monde. Donc apparemment, il y a des coutumes qui ne sont pas de ce monde. D'où sont-elles ? Du royaume de Dieu. Il est dit, mais laissez Dieu vous transformer. Apparemment, ça c'est une œuvre de Dieu. Laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Je vous lis une autre version. Il est dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. En d'autres mots, Dieu dit, pense différemment. Tu sais le problème avec les chrétiens ? C'est que très souvent, les gens connaissent Jésus-Christ, l'acceptent comme Seigneur et Sauveur, et puis ensuite, ils arrêtent de penser. Ça devient des nouilles. Grâce à la parole de Dieu, ils ne resteront pas des nouilles. Oh, elle était bonne. Et les chrétiens, ils arrêtent de penser. La seule chose qui les intéresse, c'est « Oh, il n'y a pas d'amour !» Non, la Bible nous dit quoi ? La Bible ne dit pas « Arrête de penser », elle ne nous dit pas « Débarrasse-toi de ta faculté de penser », mets ton cerveau à la poubelle. La Bible nous dit « Renouvelle ta façon de penser ». Et le verbe « renouveler », c'est le même mot que « rénover ». Est-ce que tu vois une différence entre jeter une commode et la rénover ? Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire si tu rénoves une commode ? Tu vas prendre la même commode, tu vas peut-être la poncer, et puis tu vas mettre une première couche, et puis ensuite tu vas mettre de la peinture, tu vas peut-être terminer par de la cire, tu vas changer les poignées, mais c'est le même meuble. Quand la Bible dit « renouveler votre façon de penser », c'est-à-dire que nous avons une faculté de penser, de voir des images, d'utiliser notre imagination, et la Bible dit « assure-toi que tu rénoves cette façon de penser ». Que tu l'utilises différemment et nous allons voir comment le faire. Parce que si tu penses différemment, tu seras différemment. Si tu penses différemment, tu verras différemment. Chien, tu as vu quoi ? C-H-I-E-N ? Non. Certains ont vu quoi ? Un bâtard, d'autres ont vu un berger allemand, d'autres ont vu un Yorkshire, d'autres ont vu un Shih Tzu, d'autres ont vu... Qu'est-ce que vous... On a tous vu quelque chose. Et la Bible dit, renouvelle ta façon de penser et tu seras différent. Renouvelle ce que tu penses de tes vieux jours sur terre et tu seras différent. Renouvelle ce que tu vois, ce que tu penses des fins de mois. Renouvelle ce que tu vois de tes fins de mois et ce sera différent. Oui, Dieu peut tout, mais il y a beaucoup de choses que Dieu ne fait pas sans l'être humain. Je vous donne une autre version qui dit « Ne vous adaptez pas si bien à votre culture, au point que vous vous y adaptiez sans même y penser. Fixez plutôt votre attention sur Dieu. Vous serez changé de l'intérieur vers l'extérieur. Reconnaissez rapidement ce qu'il veut de vous et répondez-y promptement. » Contrairement à la culture qui vous entoure, qui vous entraîne toujours vers le bas à son niveau d'immaturité, Dieu, lui, fait ressortir le meilleur de vous et développe en vous une maturité bien formée. Avec ceci, regardez avec moi dans Josué chapitre 1. Est-ce que tu comprends que tes pensées ont de l'importance? Beaucoup de gens pensent et sont victimes de ce qu'ils pensent. Tu sais, quand nous arrivons à Christ, nous avons un autre système de valeurs maintenant en tant que chrétiens. Nous pensons, nous avons un Dieu qui nous aime, qui est différent. On doit apprendre à vivre avec un Dieu qui n'est que bon. Pendant des années, on a appris à vivre sans Dieu. Pendant des années, on a appris à se débrouiller et on a fini par être ce qu'on était. Et un jour, on entend parler de la bonté de Dieu. Un jour, on entend parler du pardon. Un jour, on entend parler de l'amitié qu'il nous offre. Un jour, on entend parler qu'il peut tout et qu'il veut le meilleur pour nous. Et on doit apprendre à vivre avec lui. On doit apprendre à penser bonté dans notre vie. Ma question est, que veut dire la bonté manifestée dans ta vie? Mais à moins qu'on accepte de penser différemment, bien sûr on a compris, on ne verra pas autre chose différemment, mais à moins qu'on accepte de penser différemment, on vit comme si Dieu n'était pas dans notre vie. La différence, c'est qu'une fois qu'on quitte cette terre, on va au ciel. Mais quand même, le but, c'est de démarrer notre vie avec Dieu sur terre. Je prêche mieux que ce que vous réagissez là en ce moment-là, hein. Je ne veux pas dire, mais vous avez trouvé Josué chapitre 1. Alors, ici, il faut se dire que le peuple d'Israël a été sorti à coups de miracles d'Égypte et Dieu a utilisé une personne qui s'appelle Moïse. Moïse a fait un travail remarquable et maintenant, la suite, eh bien, c'est Josué. Josué qui a été formé, élevé, éduqué par Moïse, qui va prendre le relais. Et ils sont sur le point d'entrer dans les promesses de Dieu. Tu as vu des promesses de Dieu s'accomplir pour toi? Tu en as vu? As-tu une idée des promesses que Dieu a pour toi pour les prochaines semaines, prochains mois à venir? D'un Dieu qui n'est que bon? Et Dieu voudrait que tu y entres, mais tu ne peux pas y entrer avec ce que tu vois de toi. Et là, le peuple est sur le point d'entrer en terre promise, et le Seigneur dit ceci à Josué. Parce que Josué, lui, va voir exactement ce que le peuple va voir en terre promise. Il va voir des géants, il va voir des obstacles, il va voir des difficultés, il va voir que la vie sur cette planète, même en terre promise, avec les promesses de Dieu, eh bien, il y a quand même des tas d'obstacles. Et le Seigneur lui donne une clé pour entrer en terre promise. Et il lui dit, ici, au verset 8, chapitre 1, oui. Que ce livre de la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. Et il dit, médite-le jour et nuit, pas pour avoir la grosse tête, mais pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Le succès, on le veut tous. Tu veux réussir à être une grand-mère comme il faudrait qu'elle soit? Tu veux être un père de famille comme il faudrait qu'il soit? Tu veux être un employé comme il devrait être? Tu veux être un employeur comme il devrait être? Tu veux être un certain homme de 92 ans comme tu sais que ça devrait être? Ça, c'est le succès. Mais la Bible nous dit que pour avoir ce succès-là, dans toutes tes entreprises, c'est-à-dire dans tout ce que tu entreprends, c'est pas simplement question des affaires ici, que du business, c'est tout ce que tu entreprends. Tu entreprends de peindre, Dieu veut que tu le réussisses. Tu entreprends de refaire la chambre de ton fils? Dieu veut que tu réussisses. Tu entreprends une soirée? Dieu veut que tu réussisses. Tu entreprends de te marier? Dieu veut que tu réussisses. Tu entreprends de vivre de longs jours avec ton époux, ton épouse? Dieu veut que tu réussisses. Mais la Bible dit, c'est pas quelque chose qui va te tomber comme de la manne du ciel. Il va falloir que tu fasses quelque chose. C'est-à-dire que tu t'approches de la parole de Dieu. C'est étonnant le peu de chrétiens qui lisent la Bible. Étonnant le peu de chrétiens, alors que tout ce que l'on doit savoir de Dieu est écrit dans ce livre. Tout ce que l'on doit savoir de celui qui n'a que de l'amour pour nous est écrit dans ce livre. Combien n'ont pas ouvert ce livre sacré la semaine dernière? Combien de chrétiens ont une Bible? Ah ben oui, il y en a une qu'on leur a donnée peut-être quand ils sont nés nouveaux, il y a 35 ans de cela. Et la Bible dit, il ne s'agit pas que tu aies la parole de Dieu. Le Seigneur dit, je voudrais que tu médites. Tu as ma petite... Je voudrais que tu médites. Alors que veut dire méditer? Méditer veut dire ruminer. Méditer veut dire mâcher. Alors, on a tous vu des vaches. Voilà, elle a un petit air intelligent. Hein. Et cette vache-là, que vous voyez à l'écran, est en train de méditer. Dans le vrai sens du terme. Un peu comme ceux qui mâchent du chewing-gum en ce moment. Kiff, kiff. C'est-à-dire, elle va manger l'herbe, elle va extraire tout ce qu'elle peut de cette herbe, elle va l'ingurgiter, va aller dans un endroit de la panse, elle va le regurgiter, le ramener dans sa bouche, elle va à nouveau mâcher, elle va ruminer, elle va extraire tout ce qu'elle peut, elle va avaler, regurgiter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à extraire de cette herbe. Quand il est dit que nous devons méditer sur la parole de Dieu, cela veut dire quoi? Je prends un verset biblique. Je prends un verset biblique. Par exemple, la Bible nous dit, par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Oh, je vais me mettre à ingurgiter. Je vais me mettre à mâcher d'abord. Ce verset-là, je l'ai. Et puis, je vais extraire ce que je peux. Donc, je vais commencer à penser. La Bible me dit que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Ah, il y a la guérison. Tiens, Dieu voudrait que je guérisse. Dieu voudrait que je sois en bonne santé. Puis, il n'a pas mis de condition. Par les meurtrissures, vous avez été guéri. Comment ça, vous avez été guéri? Mais vous avez été guéri, ça parle de quelle partie de moi? Parce que la Bible me dit que je suis un être tripartite. Bah, ce n'est pas de mon corps, parce que mon corps, lui, je me rends compte qu'il est malade. Alors, c'est quoi? Dans mon esprit, je suis en bonne santé. Waouh! Est-ce que je comprends que cette santé est supposée émaner de mon esprit et aller dans tout mon corps comme une rivière qui déborde par les meurtrissures de Jésus? Ah, c'est donc ça que Dieu a cherché à donner à l'humanité quand Jésus est allé sur la croix. C'est sur son corps. Oui, effectivement, la Bible me dit dans Ésaïe 53 qu'il a porté mes maladies sur son corps. Légalement, la guérison appartient à l'humanité depuis 2000 ans? Non. Je viens de mâchonner, je viens de méditer, qui veut dire aussi murmurer, qui veut dire aussi parler à soi-même. Tu vas dire, oh pasteur, attends, parler à soi-même, je veux dire, pas fou hein, quand même. Tu as déjà vu des gens qui méditent dans la rue? Tu as déjà vu des gens qui ont une pensée qui les préoccupe tellement, tellement, tellement qu'ils finissent par se parler à eux-mêmes dans la rue? En général, ils sont tourmentés parce qu'ils sont dépassés. Très souvent, le mot méditation fait peur. Dans le milieu chrétien, on ne sait pas trop qu'en faire. Pourquoi ? Parce que on sait qu'il y a des religions qui parlent de méditation. Oui, mais ce n'est pas parce qu'il y a des religions qui parlent de méditation qu'il faut mettre la méditation, qui est un outil biblique, de côté. Parce que alors dans ces cas-là, ça veut dire que ces mêmes personnes, notamment les religions orientales qui poussent et qui encouragent à la méditation, vous savez que ces mêmes gens prient avec des moulins à prière. Donc parce qu'ils prient, toi tu vas t'arrêter de prier. Alors ça veut dire que parce qu'il y a des gens qui ont eu un accident en voiture, toi tu vas t'arrêter d'aller en voiture. Non ! La méditation est un outil qui nous est donné par Dieu dans le but de rénover notre façon de penser. Regarde avec moi dans le psaume, chapitre 1. Oh là 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 là, gloire à Dieu. Je vous assure que le Seigneur nous a donné tout ce qui est nécessaire pour que nous réussissions dans tout ce que nous entreprenons. Dans le psaume, chapitre 1, il est dit du verset 1 à 3, il est dit « Heureux l'homme » et « Heureux, heureux » c'est pareil que « béni ». Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui se plaît à la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit. Alors ça ne veut pas dire que tu vas rester éveillé la nuit dans le but de méditer la parole de Dieu, mais cela veut très certainement dire que si tu te réveilles la nuit, et en général, on se réveille parce qu'on a trop dormi, je sais que ça va surprendre certains, mais ça peut être une raison. Peut-être qu'on a trop dormi, ou alors on a une mauvaise digestion qui finit par nous réveiller, ou alors on finit par se réveiller parce qu'on est tellement encombré par les soucis que l'on a, qu'on se réveille. Et en général, quand on se réveille avec les soucis, on a presque l'impression d'entendre des voix qui nous disent « tu ne vas pas t'en sortir ». Et là, on commence à voir les choses. Et ce que l'on voit, parce que l'on a médité sur ces soucis, on voit des catastrophes. On voit la maladie qui finit par nous vaincre. On voit des séparations. On voit l'huissier qui va arriver à la porte. On voit qu'on n'aura pas assez d'argent pour les vieux jours, on voit que ce petit garçon ne nous parlera plus, on voit que notre enfant va échouer son examen, on voit que, et le Seigneur dit, s'il arrive que tu te réveilles la nuit, alors choisis ce à quoi tu vas penser. Tu peux choisir ce à quoi tu vas penser. Et la Bible nous dit exactement à quoi dois-tu penser? Eh bien, pense à la parole de Dieu. Médite sur la parole de Dieu. Parce que cette parole va t'aider à renouveler tes pensées. Cette parole va t'aider à voir une image différente. Et tout naturellement, tu vas tendre vers cette image. Tu sais, quelqu'un qui pense succès tout le temps, tu as beau lui dire que l'économie est mauvaise, tu as beau lui dire que l'euro tombe, tu as beau lui dire qu'il va y avoir des licenciements, tu as beau lui dire qu'il ne devrait pas pouvoir continuer à faire à cause du taux de sucre qu'il y a dans le sang, tu ne peux pas l'arrêter. Tu ne peux juste pas l'arrêter. Tel il pense, tel il est. Tu sais combien de fois on n'est pas en train de s'occuper de ce que les autres pensent de nous? Oh, si tu savais ce qu'un tel a dit de moi, oh, si tu savais ce qu'on pense de moi à mon travail, l'essentiel est que penses-tu de toi? Que penses-tu de toi? Regarde, dans Philippiens chapitre 4, Philippiens, encore une fois, Dieu a beau avoir tous ces beaux projets pour toi. Le Seigneur a beau voir ton futur, si toi tu ne penses pas comme lui, tu verras un futur différent. Et le futur que l'on se bâtit soi-même n'arrivera jamais à la hauteur du futur que Dieu a pour chacun de nous. Jamais. Ce qui veut dire, méditons, et tu peux remettre notre petite copine entre deux versets. Et Philippiens, chapitre 4, comment va-t-on l'appeler? On donne toujours un nom à une vache. Marguerite. Oh là là, eh bien, on va voir Marguerite après Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, quand tu dis « je n'y arriverai pas », quand tu dis « Dieu ne m'aime pas », est-ce vrai? Quand tu dis « Dieu n'est pas avec moi », est-ce vrai? Est-ce honorable? Que tout ce qui est juste, « Oh, il n'y a rien qui changera », c'est juste? Ce qui est pur, ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet des pensées du pasteur. Et tout le monde dit, amen. Comment ça? Ok, je reprends. Alors, il est dit, au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, oui, ça doit être aussi du pasteur. Ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos images. Soit l'objet de vos images. Soit l'objet de ton imagination. Question. Prends-tu du temps à voir ce qui n'est pas visible? Conformément à ce qui est pur, à ce qui est vrai. Tu sais qu'il y a des gens qui sont à l'hôpital psychiatrique pour avoir médité sur ce qui est faux. Mes amis, ça vaut le temps de prendre du temps pour entendre ce qui appartient à la vérité. On voit les gens dire « Oh, j'ai pas le temps d'aller à l'église !» D'accord, où vas-tu trouver la vérité? C'est dans la Bible qu'elle est. C'est dans la Bible qu'est la vérité. Regarde avec moi dans Proverbes chapitre 4. L'imagination, voir, à partir du verset 20, n'oublie pas Marguerite de temps en temps. Hein. Il est dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Donc c'est le Seigneur qui parle. Je dis, le Seigneur parle. Certaines choses de ce qu'il a parlé sont écrites, on appelle ça la Bible. D'autres, il va les parler à ton cœur. À chaque fois que Dieu parle, tu vois quelque chose. Mais comme on oublie ce que Dieu a parlé, on voit faux. Certains disent « je vois pas ». Ah non, tu vois. Mais si tu ne vois pas ce qui est vrai, ce que tu vois est faux. puisque nous sommes des êtres d'image. Même les mots, nous ne les voyons pas écrits, nous ne les voyons pas en lettres, nous les voyons en images. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Quand Dieu a dit que la lumière soit, c'est parce qu'il avait vu l'image, il avait vu le produit de ses paroles sur terre. On était fait dans le cœur de Dieu avant qu'il dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Alors il est dit « mon fils, sois attentif à mes paroles ». Il faut qu'on écoute, il est dit « sois attentif », cela veut dire qu'il faut que l'on soit concentré. Je vais te dire, un des plus gros risques de notre génération, c'est d'être distrait. Distrait. Tu sais quel est un des problèmes des jeux vidéo et d'Internet ? C'est de perdre la puissance de la concentration. Si bien que dans 5-10 ans d'ici, on va avoir des adultes qui ne pourront pas rester assis 5 minutes sur leur chaise à écouter quelqu'un. Donc dans les églises, on a très souvent maintenant des vidéos, on a différentes choses pour aider les gens à retrouver le pouvoir de la concentration. Ce qui veut dire que cela doit peut-être affecter ta vie de prière, parce que la prière réclame la concentration. On parlait de distraction là, non, je crois. Il est dit, mon fils, sois attentif. Alors, apparemment, on a compris que Dieu nous appelle à prendre du temps avec lui. Encore une fois, le temps que tu vas donner à Dieu est un investissement dans ton futur. Sois attentif à mes paroles. Pourquoi ? Parce que ces paroles se transforment en images quand elles arrivent jusqu'à nous. Encore une fois, il y a des gens qui n'arrivent pas à recevoir leur guérison parce qu'ils se voient malades. À chaque fois qu'ils se lèvent le matin, qu'ils se voient dans le miroir, ils se voient amaigris, ils se voient jaunes. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent ? Qu'ils changent d'image. Qu'ils prennent l'image d'eux quand ils étaient en parfaite santé, forts et souriants, et qu'ils regardent cette image telle ils pensent, tel il est. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. N'oublions pas que méditer, c'est parler à soi-même, murmurer à soi-même. Ça ne veut pas dire hurler et ça ne veut pas dire non plus parler quand il y a d'autres personnes dans la pièce. Mais on doit se trouver des temps pour parler à soi-même. Je pense que si... comme j'étudie à la maison, si vous m'entendiez à la maison, vous diriez, mais elles sont à combien là-dedans, là ? Je parle sur ma santé, je parle sur mon église, je parle ce que je veux voir à 90 ans, je parle ma prochaine maison, je vois ma prochaine voiture, je parle pour mes neveux et mes nièces, je parle ces choses. Je médite la parole de Dieu et je les dirige dans ces domaines-là. Alors je vois. Il est dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes conseils, ne les laisse pas tomber dans l'oubli. Mais garde-les au plus profond de ton cœur. Ils apportent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Et j'ajouterai, peu importe le diagnostic. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Ce n'est pas ce que le président et le gouvernement pensent de toi. Ça n'est pas ce que tes voisins pensent de toi, ça n'est pas ce que ton médecin pense de toi, ça n'est pas de ce que tes instituteurs, tes profs pensent de toi, ça n'est pas de ce que ton employeur, tes parents pensent de toi, c'est avant tout prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Comment te vois-tu? Alors, méditez. Exactement. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Pourquoi? Parce que quand il ne s'éloigne pas des yeux, bien ça évite d'oublier. Oui, et ça crée des images, c'est juste. Alors, pourquoi méditer? Pourquoi reprendre l'art de la méditation? Parce qu'on apprend à développer un esprit calme, peu importe les circonstances. C'est certain que quelqu'un qui médite la bonté de Dieu, qui médite la parole de Dieu, évitera le stress. Également, la méditation, le fait de parler la parole à soi-même, purifie notre âme car on devient ce qu'on pense. C'est-à-dire, tu sais que la Bible nous dit d'éviter les mauvaises compagnies, de rechercher les bonnes compagnies. La parole de Dieu est une très bonne compagnie. Également, méditer accroît la faim pour Dieu ou de Dieu, car plus on en consomme, plus on en demande. Avec la méditation, notre vue de Dieu s'élargit. La taille des choses de la terre diminue, c'est-à-dire qu'elles prennent la bonne proportion. Et tu te rappelles que rien n'est trop difficile pour Dieu. Méditer aiguise notre discernement, car on pense comme lui, on voit ce qu'il voit. Peut-être qu'on recherche moins le conseil des autres. Également, méditer procure une direction pour notre vie, parce que la parole nous dit dans les proverbes que la parole de Dieu est une lampe sur notre sentier. Et certainement, méditer permet d'imaginer. Alors, je parlais avec une amie anglophone de ces messages-là. Et puis, cette dame qui se trouve au Canada disait, eh bien, elle me posait une question. Elle dit, bien, d'accord, je vais écouter le prochain message. Et elle me disait, tu sais, j'ai une bonne imagination, mais la plupart du temps, j'abandonne les idées qui me viennent. J'aimerais tant avoir un rêve réaliste. J'en ai un, mais le temps passe si vite que j'ai l'impression que ce sera impossible, sans compter que l'argent pour réaliser ce rêve me manque. Écoute bien ceci. Méditer sur la parole de Dieu va te permettre d'imaginer, de voir, de penser autrement. Et puis, il y a un miracle qui est relatif à l'imagination. C'est que non seulement la méditation, va te donner la sagesse de réaliser ce rêve, parce que la parole de Dieu est sagesse, mais la méditation va t'amener à voir des images de toi, de ta vie, de tes projets qui vont attirer. Elles vont attirer l'argent. Elles vont attirer des connexions. Elles vont attirer des circonstances. Le problème, c'est que les gens n'osent pas rêver. Ils n'osent pas imaginer un futur brillant parce qu'ils se disent « Je ne peux pas le réaliser !» Bien, bienvenue dans le club. Personne ne peut réaliser ses rêves. Abandonne tout de suite. Dieu est supposé les réaliser pour toi. Mais à moins que tu n'aies ces images d'être le plus grand chef, d'être le plus grand designer de vêtements, Juliette, d'être le plus grand peintre, d'être le meilleur écrivain, d'inonder le monde de tes livres, d'être le meilleur employeur, d'offrir les meilleures choses à tes enfants et tes petits-enfants, à moins que tu ne vois cela, Dieu n'a rien à réaliser pour toi. Mais celui qui a ça en lui, il va attirer tout ce qu'il a besoin pour réaliser ce rêve à lui, il va l'attirer. Et celui qui rêve la poisse, il s'attire la poisse. Celui qui médite sur l'échec, s'attire l'échec. Ouais, en blanc cela, ou en bois plutôt. Alors, Dieu a des rêves pour toi. En France, on apprend à ne pas rêver. Dès que les enfants sont tout petits, on dit « arrête de rêver, redescends sur terre ». Qui a dit que je ne pouvais pas rêver sur terre? Parce que je suis fait pour rêver sur terre. Dieu m'a créé à son image. Je suis fait pour voir des images. Je suis fait pour voir mon futur. Un petit peu, tu as déjà vu des pilotes qui sont envoyés en mission périlleuse, ou alors les pilotes, vous savez, qui, le jour du 14 juillet, font des figures de groupe. Et vous avez peut-être, je ne sais pas moi, 6, 10 jets qui sont en train de faire des figures tous ensemble. Est-ce que vous avez vu ce qu'ils font avant de monter dans leur avion le jour J? Ils ferment les yeux et ils répètent les gestes. Et vous avez des hommes intelligents, ils sont intelligents ceux-là, hein, qui utilisent la puissance de l'imagination. Dieu nous a fait comme cela. Moi, je crois, on a une nouvelle année selon le calendrier biblique qui vient de commencer en septembre. On a une nouvelle année. Pour ceux qui sont encore au calendrier grégorien, c'est le 1er janvier. Mais en tout cas, il y a des mois qui appartiennent à ton futur, qui sont juste devant toi. Il y a des semaines qui appartiennent à ton futur, qui sont juste devant toi. Et je vais te dire une chose. Tu serais moins déprimé si tu vérifiais ce à quoi tu médites. Tu ne croirais pas que tu ne vaux rien si tu acceptais de méditer sur la parole de Dieu. La puissance de la méditation. Tout à l'heure, il y avait tellement de puissance. Il y avait une onction. Mais je savais ce que j'allais prêcher. Et la parole va libérer ceux qui ont besoin d'être libérés de la dépression. Elle va le faire dans la mesure où vous l'acceptez. Donc non, je ne prierai pas dans ce sens-là. Mais vous, vous pouvez choisir. Dieu est là pour réaliser vos rêves, mais il ne peut pas le faire sans vous. Ça n'est pas possible. Il ne le fera pas pour vous. Personne n'est une exception dans ce sens-là. C'est un témoignage. Oui.
Je pense que ça tombe à pic, à vrai dire. Parce que avant de connaître le Seigneur, on a eu notre histoire de famille, et mon père était parti, et j'avais beaucoup de nostalgie. Était parti au ciel assez rapidement. C'était pas attendu du tout. J'avais un cousin qui était aussi parti. Et quand mon père est parti, il a joué un rôle dans ma vie. Et lui aussi, il est décédé. Hein? Ce cousin, oui, un rôle dans ma vie. Il a comblé le vide que mon père avait laissé, parce que ma sœur et mon frère, au moment où mon père est parti, oui, voilà, ma sœur, ma sœur et mon frère, qui était aussi mon aîné, sont partis à Paris. Donc pour moi, ces deux personnes, mon cousin comptait beaucoup, et il est décédé. Et à cause de la nostalgie que j'avais de ce temps qui était tellement heureux, j'ai pris une valise dans le grenier et il y avait plein de photos de ce temps de bonheur. Mon temps d'enfance. Et j'ai mis ces photos partout dans ma chambre. Et j'avais peut-être, je ne sais pas quel âge, j'avais entre 15 et 16 ans. Peut-être, je ne sais pas du tout, j'ai perdu la notion du temps. Et je regardais ces photos. Ce que je ne réalisais pas, je ne savais même pas ce que c'était, mais je déprimais. Je marchais dans le bus, je pleurais. Je rentrais à la maison, je pleurais. Et je ne pouvais absolument... J'étais dans une vraie prison parce que je ne pouvais rien dire, parce que ma mère était en dépression. Et je pleurais, et je regardais, et je regardais ces photos, et je regardais ces photos, et je regardais ces photos. Et je ne voyais pas qu'il y avait un effet. Je croyais qu'elle me faisait du bien. Et je ne connaissais pas le Seigneur à ce moment-là. Et un jour, je rentre dans ma chambre. À vrai dire, je ne rentre pas dans ma chambre. Je mets la main sur la poignée, et ça ne m'est jamais arrivé de cette manière depuis. Et j'entends une voix. Je ne savais pas d'où elle venait, cette voix. Je ne savais même pas qui me parlait. Je ne savais même pas qu'on pouvait entendre parler. Et j'entends une voix qui me dit, quand tu enlèveras ces photos de ta chambre, tu sortiras de ta dépression. J'ai même pas... Cette voix me semblait tellement naturelle et elle me semblait tellement surnaturelle, j'ai même pas pu analyser ce qui se passait. Ce que j'ai fait, j'ai simplement réagi à cette voix. Je suis rentrée, j'ai repris cette valise, c'est une vieille valise. J'ai remis toutes mes photos de ma grand-mère, de ma sœur, de mon frère. J'ai remis toutes ces photos dans la valise et je l'ai remontée où elle appartenait, dans mon passé, c'est-à-dire dans le grenier, en fait, dans mon passé. Et ce jour-là, et je ne savais pas ce qui m'était arrivé, je suis sortie de ma dépression. Et ça, parce que ces photos, et maintenant que le pasteur prêchait, ces photos, littéralement, m'attiraient vers le bas parce qu'elles mettaient en moi des pensées. Et plus j'avais de pensées, plus j'avais de photos, plus j'avais de photos, plus j'avais de pensées, et c'était une vraie spirale. Et par la grâce de Dieu, c'est le Seigneur qui m'a sorti de là. Je ne le connaissais pas, mais voilà.
Gloire à Dieu. Merci d'avoir partagé, parce que c'était vraiment à propos ce message. Alors, peut-être que quelqu'un a les photos, des photos qui lui font mal, les photos d'un conjoint qui est parti, qui a refait sa vie, et vous, vous êtes resté en arrière. Et vous savez qu'il ne reviendra pas, mais vous continuez à regarder cela. Il est peut-être le temps de couper les amarres, de retirer ces photos et les laisser là où elles appartiennent. La puissance de l'image. Bien, bah, écoutez, je crois que j'ai dit tout ce que le Seigneur me donnait à cœur. Et peut-être que vous allez tous vous précipiter sur un catalogue de voitures, un catalogue de maisons. Vous savez, moi, quelquefois, je suis à la maison, j'ai étudié la parole de Dieu et je m'assieds, je ferme les yeux. Et je vois là où je vais. Mais il faut prendre le temps pour cela. Tu dois t'arrêter et prendre le temps. Auguste Eiffel, décidément Gustave. Moi, alors, Guy, je l'appelle Jean. Angélique, c'est Géraldine. Enfin bref, lui maintenant, c'est Auguste Eiffel. Donc, Gustave Eiffel, vous réalisez le temps qu'il a passé assis à imaginer la tour Eiffel. Si je te dis Marguerite, à quoi tu penses? La puissance de la méditation, c'est de produire l'imagination selon Dieu qui va t'amener vers ton futur. Si je dis voiture, qu'est-ce que tu vois? Si je dis plage, qu'est-ce que tu vois? Si je te dis repas à midi, qu'est-ce que tu vois? Justement, certains disent, ben justement, pasteur, ça crame. Je vois que ça brûle. Allez, on va arrêter là. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions, mon Dieu, pour ta parole. Te bénissons parce que tu es grand, tu es glorieux. Père, tu nous as fait à ton image, tu nous apprends à vivre comme toi. Seigneur, je prie afin, Seigneur, que ceux qui ont abandonné leurs rêves les reprennent. Je prie afin que ceux qui n'ont pas ouvert la parole l'ouvrent. Afin que ceux qui ne parlent pas la parole la méditent, se mettent à extraire toutes les bonnes choses qu'il y a dans ces versets. Seigneur, je te remercie de ce que nous avançons tous vers tes rêves. Nous avançons tous, mon Dieu, vers ce que nous voyons, que tu nous transmets quand nous sommes en communion avec toi. Et nous te glorifions de ce que nous voyons ta gloire dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.